I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Maintenant qu'on est à huis clos, on peut se le dire, j'ai peur. J'ai peur, non pas de la mort, de la faim, mais bien du début, de la naissance. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas être papa. Et si c'est le cas, bon bah j'agirai comme mon idole, Pelé. Non, j'ai peur de la naissance des Parisiens champions d'Europe, de me promener à la plage cet été et de croiser des maillots du PSG avec une étoile. J'ai peur aussi d'être au bar et de débattre avec un Marseillais qui m'affirme que l'OM est le plus grand club français de l'histoire avec cette deuxième Coupe d'Europe. J'ai peur de n'avoir aucun argument à mettre en face, aucun trophée, aucune fierté comme un tennisman français. Mais ce qui me fait le plus peur, je crois, c'est d'être supporter pour voir les autres perdre plutôt que les miens gagner. D'être celui qui célèbre les échecs en étant le bouffon du jeu, le pion au fond de la boîte. Salut à tous et bienvenue ici à huis clos pour la grande preview de Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, la demi-finale de Ligue des Champions. Pour beaucoup, c'est un boulevard, voire une autoroute. Alors pour en parler, il fallait un mec qui connaisse les voitures. C'est pour ça que je suis allé chercher mon Manu Moine. Comment ça va, Manu? Toujours là.
Salut les gars, ravi d'être avec vous. Je voulais juste profiter de ce début d'émission pour vous dire une chose. Déjà, vous êtes talentueux, je vous adore. Mais surtout, cette émission est quand même liée à des grandes histoires footballistiques, hein. La demi-finale de Ligue des Champions, on a connu quand même une finale de Coupe du Monde remportée. Bref, on a connu beaucoup de choses.
Perdu aussi.
Comme par hasard, oui, c'est vrai. Pour le pire et le meilleur.
En face de toi, c'est aussi un très bon pilote, mais surtout un mec qui suit assidûment l'actualité du PSG. Thomas, comment ça va?
Tout à fait, je suis fier d'avoir que tu vois que j'ai le record du tour de périph le plus rapide de l'histoire.
Et je prenais le karting aussi.
Tout à fait, le karting. Karting un peu plus compliqué au démarrage et dans les côtes, mais pour le coup, en trois roues, là, je suis très très bon. Ouais, ravi d'être avec vous. À chaque fois qu'on se retrouve, de toute manière, c'est pour parler de haut de volée, ouais, dans le foot. Et ah, ça, c'est très
souvent
cool.
Des belles affiches. Voilà. Je vous rappelle que toutes les émissions FT Sport sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer, vous les connaissez. Donc n'hésitez pas, pour le métro, c'est plus pratique. Et puis, on va se plonger directement dans cette grande preview. Juste avant, on sera en direct après chaque match de ces demi-finales pour le Paris Saint-Germain. Il y aura mercredi prochain, donc après Borussia Dortmund PSG, on sera en direct donc aux alentours de 23h. Et puis au match retour, ce sera le mardi au Parc des Princes, pareil aux alentours de 23h. Maintenant que vous avez toutes ces infos, on peut plonger dans cette grande preview. Les gars, on va séquencer cette preview en trois axes. L'axe storytelling, dans un premier temps, parce qu'il y a deux équipes qui commencent, mine de rien, un peu à se connaître. L'axe tactique et puis l'axe mental dans un dernier temps. On commence avec l'axe storytelling parce que, mine de rien, PSG-Dortmund, c'est une confrontation qu'on a pas mal vue depuis 2020. On va le voir tout de suite, puisqu'en 2020, il y avait les huitièmes de finale qu'on avait d'ailleurs suivi avec First Team à
tout
l'époque.
À
le Borussia Dortmund s'était imposé 2-1 à domicile devant son mur jaune, et puis au match retour le PSG s'était imposé 2-0. On s'en souvient d'ailleurs, les gars, il y a eu des célébrations derrière, ils avaient recopié la célébration de Haaland, on s'en souvient.
Et puis dans un stade vide au retour, surtout.
Ouais, complètement. Stade vide.
Bien sûr, c'était
avec
le premier
du monde
match
en dehors.
Voilà, le premier match Covid avec Angel Di Maria. Exactement. Et la photo iconique comme ça avec les pétards, enfin avec les fumis plutôt.
Et la frappe de Dortmund, la frappe de Haaland, l'une des seules en dehors de la surface, ouais, depuis bien longtemps pour notre ami.
Que tu avais un peu trop célébré au bout de polo. Disons-le.
J'ai célébré le football, je le redis à Polo ce jour-là, et pas du tout le Borussia. Et puis cette saison, on les a vus en poule, mine de rien, et ça va nous aider quand même dans cette analyse de cette preview. 2-0 au match aller au Parc des Princes, et puis le match nul au match retour, donc du côté de l'Allemagne. Thomas, j'ai envie de commencer par toi. Quand tu vois mercredi dernier, après la victoire du PSG, que le PSG va tomber sur le Borussia Dortmund, c'est quoi déjà ton premier avis?
Bah écoute, déjà t'es ravi de la qualif, et puis à l'image de Nasser, hein, qui était grand sourire parce qu'il venait de vivre une très grande soirée avec cette victoire 4-1 à Barcelone, mais parce qu'il était déjà projeté vers la suite et que qu'à partir du moment où les tirages au sort sont faits avant les quarts de finale, ce qui n'était pas le cas avant, eh bien oui, tu penses forcément à l'autoroute, tu penses forcément à cette double confrontation contre cette équipe de Dortmund où tu es clairement favori. Voilà, donc lors du débrief après le Barça, j'avais parlé d'humilité. Je crois que c'est le maître mot qui doit animer ce club, au-delà même de l'équipe, ce club, de la confiance, oui, mais de l'humilité, parce qu'il y a deux gros matchs à jouer et le match aller va être exceptionnel. On se souvient, en poule, hein, ça avait été un superbe match de foot où il y avait eu un nombre d'occasions, mais une folie. Donc je suis ravi d'affronter ce type d'équipe où tu sais qu'il y aura des occasions, il y aura du rythme et il y aura sûrement des surprises.
Manu, depuis leur affrontement en poule, il y a eu quand même deux dynamiques un peu différentes. Le PSG est aujourd'hui premier facile du championnat français. Dortmund est cinquième. Si on reste sur la dynamique, on a l'impression quand même qu'il y a deux mondes, non ?
Ah, deux mondes, je sais pas. Je pense qu'il y aura des similitudes, je trouve, entre ces deux équipes qui, mine de rien, ont haussé leur niveau de jeu ces dernières semaines. Alors le problème avec le Borussia Dortmund en championnat, ils sont cinquième à plus de 20 points, je crois, de Leverkusen.
Ils se battent pour la Ligue des Champions.
Ils se battent pour la Ligue des Champions. Le souci, c'est leur inconstance. C'est une équipe qui a fait match nul contre Leverkusen la semaine dernière, qui a battu le Bayern 2-0 à Munich, mais qui est tombée à domicile contre Stuttgart, donc capable un petit peu du pire comme du meilleur. C'est une équipe qui s'est renforcée aussi également cet hiver avec l'arrivée de joueurs qui sont assez importants, notamment Jadon Sancho qui a été prêté par Manchester United. Il y a le jeune Madsen aussi également qui a été très très bon contre l'Atlético. Donc c'est une équipe qui a évolué, c'est une équipe qui souffre toujours un petit peu des mêmes problèmes, je l'ai dit, l'inconstance sur l'ensemble des matchs et aussi pendant un match, on l'a vu contre l'Atlético. Ils menaient 2-0 en mettant une énorme pression et puis derrière ils se relâchent et ils sont rejoints à deux partout. Maintenant, c'est dans le storytelling parce que c'est vraiment la première partie qui nous intéresse. Je pense qu'elle a, cette équipe, elle a la croisée des chemins par rapport au Paris Saint-Germain. On a un PSG qui est en transition, une année de transition, c'est Nasser Al Khelaifi qui l'avait dit, et on a un Borussia Dortmund qui est lui en fin de cycle quelque part. Quid de l'avenir de Terzic, le coach qui est pas mal tensé, critiqué cette année, une équipe traumatisée par la fin de scénario de saison de Bundesliga l'année dernière, et une équipe, on y reviendra, où on dit que beaucoup de cadres en tout cas risquent de partir à la fin de cette saison.
Les gars, pour finir sur ce côté storytelling, on voulait en parler, mais est-ce que pour vous il y a une rivalité entre ces deux équipes ou c'est trop tôt ? Ça fait 4 confrontations depuis 2020, ils s'étaient affrontés en Ligue Europa peu avant. Il y a une rivalité vraiment ?
Les effectifs ont trop changé, on pourrait dire ça. Maintenant, pour un supporter du Borussia Dortmund, comme pour un supporter du Paris Saint-Germain, tu n'oublies pas ce qui s'est passé ces dernières années. On n'oublie pas notamment que pour Paris, ce match retour de 2020 au tout début de la fameuse période Covid, ça a été quand même un game changer, je pense, dans nos têtes en tant que supporters, pas forcément dans les têtes des joueurs. Le fait de voir Paris perdre et être dominé sur un premier match et d'inverser la vapeur sur un match retour, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on n'était pas vraiment habitué à tout ça.
Ouais, clairement, je ne parlerai pas de rivalité parce que c'est vrai que d'un point de vue de l'Europe, tu penses surtout au Barça, au Real, voire au Bayern Munich et aussi à City. Hein, c'est les équipes que le PSG a souvent rencontré et souvent perdu hein, contre ce grand club d'Europe. Il n'empêche que quand je vois le dernier match des poules hein, qui a vu le PSG aller se qualifier, on se souvient partout, ouais, hein, le PSG est éliminé en étant mené 1-0, hein, absolument. Donc c'était déjà un match qu'il fallait jouer à 100%. Je dirais pas qu'il y a une rivalité, mais il y a clairement un antécédent à très court terme. Les deux clubs sont pas forcément rivaux dans leurs histoires, je crois pas en tout cas. Mais par contre, ces deux équipes ont absolument tout à prouver dans ce bras de fer qui les attend sur une semaine. Donc, ouais, peut-être pas une rivalité, mais en tout cas, il y a tout à prouver d'une équipe ou de l'autre.
On est d'accord juste sur une chose, c'est que sur le match aller-retour des poules, qui était un autre contexte, on avait assisté d'ailleurs à deux matchs très différents. On est d'accord que Paris avait quand même dominé son sujet pour moi sur les deux matchs.
Ouais, même au retour. Hein.
Voilà, même au retour.
Même au partout, il y a
énormément d'occasions, ouais, exactement, et manque d'efficacité du
match. Mais on a raison de rappeler, on l'avait déjà dit pour la preview face au Barça, c'est deux équipes qui viennent du groupe de la mort, deux équipes qu'on ne voyait pas forcément aller au bout, deux équipes qui sont dans le dernier carré, donc bravo. On va rentrer quand même dans l'aspect tactique, l'aspect qui nous intéresse le plus. On va commencer par le PSG qui est en pleine bourre hein, depuis le match face au Barça. Ils ont gagné 3 matchs, 3 fois 4-1 face au Barça.
Face à qui d'autre ?
Face à Lorient et celui d'avant, c'était face à l'Olympique Lyonnais.
Ah, c'était en prévision de la finale de Coupe de France, oui, bien sûr.
C'était une belle répétition.
Belle entame, hein, les Lyonnais.
Bravo,
bravo les gars.
La défense est prête.
Incroyable.
3 victoires de suite. Donc, et puis Thomas, surtout un 11 type qu'on va voir qui semble s'être dégagé, qui semble s'être confirmé, et c'est quand même quelque chose d'important. Puisque avant la preview face au Barça, on le disait, on doute encore de ce 11. Finalement, là, on a l'impression qu'on l'a trouvé.
Ouais, Luis Enrique a tâtonné pendant des mois. Il y a eu, bien sûr, des retours de blessures, hein, mais il s'est cherché. Il a cherché une équipe type. Il a réussi aussi à intégrer absolument tout le monde. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les joueurs, le groupe est à 100%. Il n'y a pas de blessés. Ouais. Habituellement, Verratti et Neymar étaient souvent absents, l'un pour post-clop, l'autre pour blessure au pied. Mais,
carnaval.
Ouais, au carnaval, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça, c'est le côté archi-positif des deux matchs contre le Barça. C'est que ils sont allés jouer ce premier match avec une équipe et ils se sont ratés sur une première mi-temps. Ils ont changé les choses avec Vitinha qui s'est retrouvé en 6 et puis une équipe maintenant qui s'est clairement dégagée après le beau match retour. Donc ouais, en tant que supporter, moi je suis ravi de me dire ok, je sais sur qui ils vont pouvoir compter, je sais comment ils vont aller avec leur certitude. Quelques défauts évidemment dans cette équipe, mais c'est déjà la première chose intéressante de cette longue saison pour le PSG. Luis Enrique a trouvé un 11.
Manu, quand tu vois ce 11, est-ce que tu penses que Luis Enrique, tout Luis Enrique qu'il est, peut faire une petite dinguerie avant la demi-finale, une petite surprise?
Il y a juste un petit doute que j'ai en tête. On sait que Ramos a pas mal joué sur les derniers matchs. On sait aussi que le Borussia Dortmund devrait évoluer en 4-2-3-1. Est-ce qu'il peut pas être tenté justement de proposer un 4-2-3-1 avec Ramos, on va dire, en pointe, peut-être Dembélé dans une situation axiale un peu plus numéro 10 et sur les côtés Barcola et Kylian Mbappé. Le souci, c'est qu'on a vu un Barcola très très fort à gauche, notamment contre l'Olympique Lyonnais. Donc normalement, tu dois aller essayer de l'installer justement dans ce coin.
Ouais, et puis la bataille du milieu va être hyper importante, bien clairement. Sûr, c'est toujours ça. Donc imaginez sortir que ce soit Fabien Ruiz, enfin on imagine Fabien Ruiz parce que Zaire Emery et Vitinha sont titulaires sans aucun doute. Mm-hmm. Même si je suis pas le plus grand fan de Fabien Ruiz, au vu de ses performances, du sérieux
en Ligue des Champions,
ce serait quand même dommage de repartir avec trois attaquants, surtout à l'extérieur, sur un match aller. Hein.
Complètement.
Ce serait la folie.
Ce qui est sûr, quand on voit ce 11, c'est que finalement, il y a trois joueurs qui ressortent sur ces dernières semaines. Trois joueurs, c'est Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Vitinha. Vous voulez commencer par qui, les gars?
Ousmane, peut-être.
Ouais, Ousmane Dembélé, si tu veux.
Tu parlais de Factor X, Tom, ouais. avant les quarts de finale.
Ça n'en est plus du tout, hein.
Disons qu'il a complètement réinversé la tendance. Il fait une vraie bonne saison. C'est l'élément déclencheur de beaucoup de choses pour le PSG. Il a joué des matchs importants. Ces mecs qui sont tout le temps blessés. Il a assuré cette saison. Il a été très peu absent. Il a réussi cette prouesse à devenir, sur un déclic, à être efficace. Et ça, quand même, c'était imprévisible. Il a marqué un but sur, 25 matchs. Il en a marqué 4 sur les 3 derniers. Et ça, c'est une prouesse totale et des beaux buts. Des buts importants, des buts qui changent les momentum, des buts de renard, je pense au deuxième poteau ici ou là. Enfin, franchement, Ousmane Dembélé bluffe absolument tout le monde depuis 2 semaines.
Mais pour te rejoindre, il a mis donc 4 buts sur les 2 derniers matchs.
3 derniers matchs.
Sur les 3 derniers matchs, pardon. Mais ce qui moi, me saute un peu plus à la gueule, c'est pas que le dernier geste qui est un problème. Là, il y a eu un déclic aussi sur son positionnement. Tu le dis, sur le but sur l'offrande d'Mbappé, il est quand même au deuxième poteau. Sur le match face au Barça, il est aussi bien placé. On a l'impression qu'il sent presque que les coups maintenant.
Voilà.
Non, mais c'est
attends,
fou.
On va pas se porter l'œil. Il y a un match qui arrive très vite. Non, mais c'est intéressant, comme tu l'as dit. C'est un garçon qui monte en puissance. On rappelle, c'est un homme de base aussi du système de Luis Enrique parce que il a des libertés. Alors parfois, il est contraint à jouer au milieu de terrain, parfois un petit peu plus excentré. Mais moi, c'est ce que tu dis. Moi, je trouve, c'est surtout l'entente aussi avec Kylian Mbappé. On voit des automatismes depuis le début de la saison. Mais là, c'est diablement efficace contre l'Olympique Lyonnais. Franchement, ça a été même impressionnant. Donc oui, c'est le garçon. En plus, il joue contre l'Orient. T'as raison. Mbappé jouait pas titulaire. Donc oui, en effet, tu vois, il joue contre son ancien club. On sait qu'apparemment, ça a l'air de lui.
ça peut lui réussir, en tout cas.
Il a déjà
ça qui
est prévu. Il est parti en moins bas. Ouais, a priori, c'est
exactement ça.
Et moins de cris racistes aussi en Allemagne.
On espère. On espère, ça serait mieux. En effet, il y a aussi le fait que ce soit un PSG qui soit un petit peu plus collectif. En vrai, à la manière de Barcola, dont on pourrait aussi parler dans ses joueurs clés, ce sont des garçons qui peuvent jouer la transition. Avant, le PSG jouait en transition uniquement justement sur le talent et la vitesse de Kylian Mbappé. Ouais. Aujourd'hui, pour la défense adverse, c'est très très compliqué parce que tu as la possibilité avec Mbappé, avec Barcola, mais aussi avec Dembélé.
Tu parlais de sa relation avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on peut en parler évidemment, toujours le joueur le plus attendu du côté du Paris Saint-Germain, qui est mine de rien en forme. Hein. Il est à 2 buts sur les 2 derniers matchs, il me semble, un but contre le Barça et un but
deux buts contre le Barça.
Deux buts contre le Barça. Ah bah oui, il y a le péno aussi et un but contre l'Orient.
Ça compte les pénaux. Hein.
Oui. La Cazette est meilleur buteur comme ça, donc je le sais bien. Mais Kylian Mbappé semble être en forme. Et puis, il y a un facteur important, Thomas, c'est qu'il arrive peut-être avec moins de pression que face au Barça.
Ouais, il y a moins de pression parce que perdre en quart contre Barcelone, avec tout ce qu'on a entendu depuis l'annonce, enfin la non-annonce pour l'instant, de son départ et en tout cas la gestion du club depuis cette annonce en interne, il y avait beaucoup de questions sur son état de forme, le match aller qui a été complètement raté, mais il se rassure avec ses deux buts. Et c'est vrai que lorsqu'on fait, on regarde la big picture, comme on dit, il marque trois buts en huitième de finale, il marque deux buts en quart et le PSG en demi-finale. Donc ça reste archi positif. Il y a autre chose, moi, qui me... Tu parles de pression, l'adversité qui va être offerte à Kylian sur ces deux matchs, elle est très différente de ce qu'on va voir, ce qu'on a vu contre le Barça. Le Barça a décidé de laisser la possession, le Barça a décidé de défendre à plusieurs sur Kylian face à cette équipe de Dortmund qui est clairement va en guerre, qui est là tout pour le jeu offensif. Il va avoir un nombre de situations où il excelle, donc des 1 contre 1 avec de la vitesse sur son aile gauche, où normalement il doit avoir beaucoup d'occasions. Et dans les grands matchs, on voit les grands joueurs et ce sera une nouvelle ligne qu'il devra écrire dans sa carrière.
On imagine que le coach de Dortmund va s'adapter, mais pour l'instant, ce serait Ryerson et Hummels. Hummels qui n'avance plus, hein, ouais, et Ryerson qui n'est pas un défenseur référencé. Il y a plus d'espace, c'est sûr, c'est différent que Koundé et Araújo qui étaient vraiment focalisés sur Mbappé.
Il va y avoir beaucoup d'espace normalement, en tout cas pour Kylian Mbappé, pour les autres aussi, hein, parce que comme on l'a dit, maintenant c'est un collectif et le jeu ne dépend plus uniquement de Kylian Mbappé. Hummels, à son âge, même s'il a été, il a alterné l'excellent et le moins bon avec ce but contre son camp contre l'Atlético. On sait que c'est un garçon qui est un petit peu lent aussi. Il a une magnifique qualité de relance qui pourrait gêner Kylian Mbappé, qui, on l'a vu maintenant, assure les pressings et essaye de pourrir les premières sorties.
Tu avait visé Kubarsi à mort. Exactement. Dans le plan de jeu, c'était très intelligent.
C'était vraiment ça. Et pareil pour Schlotterbeck, qui est le compagnon de charnière de Hummels.
Qui lui cavale pour le coup un peu plus.
Qui cavale un petit peu plus, mais c'est quand même pas le défenseur le plus rapide d'Europe. Donc non, il y aura des coups à jouer pour Kylian Mbappé. On risque de le voir beaucoup plus qu'on l'a vu sur les deux matchs contre Barcelone.
Le dernier joueur en forme est presque le joueur le plus important du PSG. Faut pas avoir peur de le dire sur ces dernières semaines. C'est Vitinha qui est vraiment le moteur, hein, le baromètre du PSG. Celui qui fait peut-être gagner même Paris. On le sent très bien, on le sent libéré. J'avais même envie de dire, depuis en fait le départ de Messi et Neymar, mine de rien, il a un tout nouveau rôle où c'est lui qui fait le jeu, où c'est lui qui a l'espace et c'est lui qui fait la différence. On l'a vu beaucoup contre Lyon faire mal au milieu de terrain. Vitinha va être très important dans ce milieu de Dortmund. Technique, encore une fois, plus technique sur le papier que le Paris Saint-Germain, mais c'est lui qui va faire la différence.
Il est le dépositaire du jeu du PSG et c'est un gars qui est capable de jouer à beaucoup de positions, clairement. On l'a vu tantôt milieu gauche derrière Kylian Mbappé, on s'en souvient, c'était il y a quelques mois. Souvent 8 aussi, et c'est dans mon esprit là où il serait le meilleur. La seule réalité du moment, c'est qu'il joue 6, qu'il est le patron de la création du milieu de terrain du PSG et que ça lui va à ravir. Il est face au jeu, il a une technique de balle exceptionnel et il allie à ça quand même une technique de frappe et une dangerosité qui n'existait pas ces dernières années au PSG. Donc il marque deux buts contre le Barça, dont le deuxième frappe de loin de grande qualité. Le premier, c'est aussi ces buts de milieu qui se projettent et qui transpercent les défenses. Il a toutes les qualités pour continuer face à son incroyable progression ces dernières semaines. Et ça, c'est à mettre clairement au crédit de Luis Enrique.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est justement là-dessus que je voulais partir sur Vitinha. On sait maintenant, parce que Luis Enrique en a parlé, que certaines voix aussi également au club se sont élevées. L'année dernière, le problème de Vitinha, c'est qu'il arrivait dans un vestiaire où il était, on sait que c'est un garçon qui est assez timide, c'est pas forcément un leader né en tout cas dans un vestiaire, et il s'est fait un petit peu bouffer justement par les tauliers qui depuis sont partis. Et Luis Enrique, en le repositionnant justement 6, lui a donné aussi également les clés du jeu, les clés du combat, les clés de la construction, première rampe de lancement. Et en plus de ça, comme vous l'avez très bien dit, c'est un mec qui se projette, c'est un mec qui prend sa chance aussi également. C'était le cas lorsqu'il évoluait du côté du Portugal. Donc on a le milieu de terrain qu'on attend depuis des années du côté du PSG. Tant mieux pour nous tous. Et merci Luis Enrique d'avoir justement construit cette progression.
Parce que parfois sur ces profils-là, moi j'ai toujours un doute. Tu sais, lorsque tu es au milieu de terrain, que t'es un joueur actif, que tu as une grosse fréquence de pied, un bon volume de jeu, tu restes quand même sous-dimensionné. Alors bien sûr que le foot, c'est pas le basket, mais moi j'aime quand il y a des grands costauds autour des petites techniques. au Barça, il y a toujours eu Iniesta, Xavi, il y avait Yaya Touré, il y avait Busquets, il y avait Seydou Keita, il y avait des mecs pour envoyer quand Moga là, il fallait que voilà, même si c'est pas les derniers, ils s'échappaient pas hein, les petits, mais j'aime les équipes qui sont complémentaires. Voilà, Modric a toujours eu Toni Kroos ou Casemiro à côté dans les grandes années du reste des dernières années. Là le PSG, ils ont pas ce gars-là. Alors oui, Fabien Ruiz fait plus d'1m70, mais il n'a absolument rien du puncher du milieu de terrain. Donc moi c'est toujours ma petite crainte, comment ce milieu de terrain là, plutôt technique, on va dire comme ça, il y a Warren qui est à côté aussi, mais est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à un milieu de terrain qui va enchaîner les assauts en fait tout simplément et donc résister défensivement.
Ça c'est la grande clé du match.
Et ça envoie du bois, absolument. Ça court et ça.
Mais ça le fait de manière tout à fait inconstante. On l'a vu là contre l'Atlético où t'as vraiment un décalage entre la première et la deuxième période. Par exemple, que ce soit sur le match aller, match retour, c'est une équipe qui est le Borussia inconstante. Mais t'as raison, ça va être le grand défi. C'est pour moi l'un des grands points d'interrogation autour de ce match. Est-ce que le milieu du Paris Saint-Germain, pourra justement résister à la pression de Borussia Dortmund. Oui, c'est vrai. J'ai tendance à confondre Ligue des Champions et nationale.
Bientôt les deux équipes parisiennes, peut-être en Ligue des Champions.
On espère.
Bien sûr.
Bon, on se concentrera sur le Borussia.
Bravo Habib Bey, d'ailleurs.
Bravo Habib. Offensivement, donc ça va mieux du côté du PSG. Il y a quand même toujours une fébrilité défensive, surtout en Ligue des Champions, surtout en déplacement. On rappelle la stat, ils n'ont pas encaissé de but depuis.
Ils n'ont pas fait un clean sheet à l'extérieur depuis 2021.
Depuis
ça remonte.
Bachakchir.
Istanbul. Du côté d'Istanbul. Mais on le voit là sur ce tableau. Merci en régie. 10 matchs cette saison, 12 buts encaissés et 3 clean sheets. Les gars, défensivement, surtout, on en parlera juste après avec la projection du Borussia Dortmund, ils vont avoir du travail et il n'y a pas de certitude, une nouvelle fois.
On est tous sûrs que le
peut-être
PSG...
Marquinhos, le seul qui va.
Franchement, l'avantage des Sportco, c'est qu'on peut parler d'individualité, mais c'est l'exposition collective.
Surtout en défense.
Donc, clairement, sur tous les aspects. Quand on pense à défense, on pense au gardien, fébrile. On pense à cette défense qui parfois fait peur. On pense à Nuno Mendes qui est fautif sur le premier but du Barça. On pense à Hakimi qui est aspiré vers l'avant ici ou là. Bon, bref, on connaît de toute façon les qualités et défauts. Je crois qu'ils vont prendre des buts. Je crois que l'ADN de ce club, c'est de marquer un but de plus. Et les quarts de finale de toutes les équipes ont prouvé que c'était la tendance du football actuel. Donc, ils vont prendre des buts, il faudrait être fort dans la tête.
C'est dans la gestion du momentum en vrai. Je te rejoins entièrement et c'est même dans l'ADN des deux équipes qui se rejoignent en demi-finale. Et comme tu l'as dit, avec le changement de format, en fait, avant, il y avait cette idée de à domicile, tu n'encaisses pas de buts.
Oui, c'est sur l'ancien format. Qui t'a verrouillé, t'as raison.
Et on essaie de jouer notre va-tout à l'extérieur. Là, avec ce but à l'extérieur, entre guillemets, qui ne compte pas d'où, parce qu'en fait, il a jamais.
En cas d'égalité.
Tu fais bien de le préciser. ça a complètement changé la physionomie de ces matchs. Et Dortmund, on va pas présenter, mais la Bundesliga, c'est quand même le leitmotiv, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. C'est pour ça d'ailleurs que les équipes encaissent autant et marquent autant dans ce championnat. Et Dortmund est vraiment dans cet esprit-là. Cette stat me fait pas tant peur que ça, parce que si tu prends la stat de Dortmund, je pense qu'elle est pire.
Non, elle est pire. Mais t'as raison, on va parler un peu de Dortmund. On va quand même se concentrer sur leur composition. On va mettre celle qu'ils avaient utilisée lors de l'Atletico que Terzic avait mis en place avec Kobel derrière, la charnière Hummels, Schlotterbeck, Ryerson et Madsen sur les côtés. Madsen, on va en parler juste après, très bon en arrière-gauche. Sabitzer, Emre Can, Julian Brandt en 10 aussi, là il va avoir du travail. Et puis sur les côtés, Adeyemi, Sancho. Et devant, le grand Folkrog qui a mis le but, cette tête
bravo,
décroisée.
Bravo, t'es allé au bout du 11 sans faire de faute, bravo. Pas cadeau.
On leur demandera quand même. On demandera à Jean-Charles Sabatier parce que pas sûr que j'ai mis l'accent qu'il fallait.
Que fait Jean-Charles? On va l'appeler d'ailleurs.
Mais il a mis une tête exceptionnelle, Folkrog.
Tête décroisée.
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Très, très tensé par les supporters, notamment avant ce but contre l'Atletico parce qu'il était dans une période un peu compliquée.
Il n'a pas marqué depuis 97 et la victoire avec des champions.
Manu, on va revoir la compo. Pour toi, quand tu vois la compo du Borussia Dortmund, quelle est la ligne qui t'inquiète le plus pour le PSG? Ça peut être aussi côté droit ou côté gauche, ou alors ligne milieu.
Alors je vais dire, on va couper cette équipe en deux et on va prendre les 5 joueurs qui sont devant: Füllkrug, Sancho, Adeyemi, Emre Can, Sabitzer et Brandt, parce que justement c'est une équipe qui se projette beaucoup. On l'a vu contre l'Atletico, lorsqu'ils tiennent le ballon, qu'ils sont installés dans la moitié de terrain adverse, ils peuvent se retrouver dans des situations à 4, 5,
j'ai deux photos.
6 joueurs.
Désolé Régis, je vous mets un peu mais j'ai fait deux screens du match face à l'Atletico pour qu'on voit un peu la projection et comme ça tu vas pouvoir t'appuyer dessus.
Exactement. Alors regarde, on voit tout à fait la projection justement des joueurs du Borussia Dortmund avec quand même Brandt qui est un joueur extraordinaire, peut-être peut-être un des joueurs les plus sous-cotés aujourd'hui en Europe, quand on voit justement ce qu'il arrive à apporter. Adeyemi qui va à 200 à l'heure, Emre Can qui a quand même un sacré pied, qui adore se projeter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sabitzer qui a été extraordinaire contre l'Atlético, ouais, sans doute l'un des meilleurs joueurs sur le match. Et puis Sancho, mine de rien, il a changé le visage offensif de cette équipe en arrivant auprès de Manchester.
Sur le but, si on peut voir aussi sur le but, parce que ça.
Exactement. Regarde la présence dans la surface de réparation. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est très important, et c'est là que le Paris Saint-Germain justement va devoir être très 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 concentré et justement essayer de rivaliser aussi également dans le rapport de force, parce que ça c'est l'atout de cette équipe du Borussia Dortmund. Mais à l'inverse, on pourrait dire que cette équipe est complètement coupée en deux justement sur les transitions, et c'est pour ça que Paris aura des espaces.
Thomas, c'est très différent du match face au Barça. Hein. Au Barça, il y avait Lewandowski toujours en point d'appui, il y avait Rafinha qui rentrait parfois, Lamine Yamal. On n'a jamais vu autant de joueurs dans la surface.
Ouais, absolument, c'est le bras de fer qui est très très différent de celui du Barça ou de celui qui aurait pu être l'Atlético Madrid. Lorsque tout le monde a vu Dortmund passer, la première chose c'est il y aura du spectacle, il y aura des buts, il va y avoir du rythme, etc., etc. Là où l'Atlético Madrid va jouer dur, va être croquevillé. Et je donne énormément de crédit à cette équipe de Dortmund d'avoir fait ce match-là en arrivant à domicile. T'es perdant 2-1 et éliminé, tu mènes 2-0, t'es rattrapé. Normalement, tu t'effondres. Contre une équipe, quand l'Atlético, tu t'effondres. Il y a 2-2. Ah, et puis tu te bouffes les couilles. Mais non, c'est pas genre d'équipe. C'est une équipe qui va absolument rien lâcher pendant les 180 minutes. C'est une équipe qui va continuer à attaquer, à mettre des coups de boutoir comme ça sur la tête du PSG. La grande question, moi, que je me pose, c'est si cette équipe négocie mal son match aller. Voilà, c'est la vraie question. À domicile, le mur jaune, l'ambiance qui va être exceptionnelle, les deux matchs qu'on a vécu fin 2023. Si cette équipe est pas capable de mettre 2-3-4 buts au match aller, franchement, au retour, normalement t'es pépouze. On se comprend, bien sûr.
Il y a la possibilité de le faire, en tout cas. Voilà. On rappelle que Terzic, le coach du Borussia Dortmund, n'a jamais perdu en Ligue des Champions à domicile.
Le titre en Ligue des Champions.
sauf une fois en 2021 contre Manchester City. Donc c'est te dire quand même le défi qui va être celui du Paris Saint-Germain bien dans le cadre de ce match. Juste dans ce qu'on dit, en effet, je dis cette présence, ce qui aurait pu être marrant, c'est de mettre justement la photo de la présence d'un surface de réparation justement dans leur propre camp sur les deux buts de l'Atlético Madrid. Ce qui est dingue, c'est que t'as autant de joueurs dans leur propre surface, mais par contre complètement passifs et complètement dominés dans les duels. Donc c'est vraiment une équipe qui a deux visages.
Et comment ils vont faire Paris? Il faut que tout le monde défende, on est d'accord. Il faut que Dembélé fasse les efforts pour protéger Hakimi. Barcola va le faire, et c'est aussi pour ça qu'il va jouer. Il a ça en lui et il est au service du collectif. Mbappé va faire ses petits trucs un petit peu loin, mais au bout d'un moment on va pas lui demander de défendre dans sa surface. Il y a vraiment cette idée que sur les ailes, il va falloir défendre à plusieurs.
Celui que t'as pas cité qui m'inquiète le plus, c'est Nuno Mendes, qui était quand même en galère face au Barça. Et là, sur la projection, il y a moyen qu'il se fasse prendre 2-3 fois.
Après, il est en galère parce que c'est des 1 contre 1 joués, que le PSG est très haut. Alors que là, il y aura des séquences où Paris va défendre.
Et puis, tu l'as très bien dit, Barcola et Dembélé font les efforts défensifs que ne faisaient pas, par exemple, Neymar et Messi l'année dernière. Donc, ça, c'est important. Il y a une chose, moi, Paris m'a impressionné contre l'Olympique Lyonnais sur l'aspect contre-pressing.
Pardon, attends,
Paris m'a impressionné contre l'OL.
Qui jouera la demi-finale aussi.
Avec l'équipe L'O,
face au Real.
Au moins dans l'attitude. Rappelle-toi que l'année dernière, Paris se fait taper par l'OL et qu'il n'y avait absolument aucune course. Voilà, en plus, par un but de Barcola. Il n'y avait aucune course, il n'y avait aucun pressing, il ne se passait rien. Là, 2-0, au bout de quoi, 15-20 minutes, tu vois un Paris Saint-Germain. Oui, au bout de 11 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est exactement ça. Mais tu as un Paris Saint-Germain qui continue à être très très haut, à empêcher justement à presser les Lyonnais, on va dire, dans leurs 25 derniers mètres. Et c'est exactement l'attitude qu'on a envie de voir au match aller.
J'ai fait un tableau pour montrer pourquoi un peu se méfier de ce Borussia Dortmund. Le premier point, c'était la projection, ça tombe bien, on vient d'en parler. Le deuxième point, les gars, c'est les momentum, parce que c'est une équipe, le Borussia Dortmund, de momentum. J'ai noté les stats face à l'Atlético, ils mettent 2 buts en 5 minutes pour mener 2-0. Ils prennent derrière 2 buts en 15 minutes, là c'est l'Atlético qui se qualifie,
et après
et derrière 2 buts, oui, ils inscrivent en 3 minutes.
Et il reste 20 minutes dans le match. Hein.
C'est des momentum très haut, mais aussi très bas. Et ça, il va falloir les gérer pour le PSG.
Ouais, c'est exactement ça. C'est que les supporters du Paris Saint-Germain vont sans doute trembler pendant les 180 minutes et la double confrontation, parce que c'est une équipe qui a, qui a vraiment deux visages. Le match aller, c'est fou. Tu te dis, mais comment ils peuvent perdre ce match de 2-1 contre l'Atlético alors qu'ils ont eu des moments qui sont tellement forts mais qui n'ont pas réussi à convertir. Et pareil sur le match retour. Si tu te souviens bien, Morata Morata, il en a
bravo
une belle.
Bravo Morata.
Il en a une belle au bout de 5 minutes.
C'est la deuxième minute du match. Ouais, voilà, alors exactement. C'est un coup comme si c'était à 98ème. Hein.
Exactement. C'est complètement
incroyable.
Derrière, il a fait un piqué, il y a quelqu'un qui s'est claqué derrière.
Oh Morata, Alvaro toute sa vie de toute façon.
C'est une dinguerie. Derrière, ils en mettent deux. Derrière, ils se relâchent complètement. Plus aucun duel, plus du tout concentré sur le match. Ils en reprennent deux, comme tu l'as dit. Enfin bref, je vais pas redérouler le scénario que tu viens de nous dérouler. C'est une équipe qui a des trous d'air hallucinant, aberrant, et c'est une équipe peut-être un petit peu traumatisée quand même par le scénario de la dernière journée en Bundesliga où ils ont perdu le titre contre le Bayern de Munich.
Tu le disais Thomas, on le verra d'ailleurs en code tout à l'heure, ça peut être une orgie offensive du côté du Paris Saint-Germain parce que c'est une défense, on parlait de celle friable du Paris Saint-Germain, c'est pareil de l'autre côté. Hein.
Ouais, et bon, bien sûr il y a eu Mels là-dedans, tu vois, tu peux te poser la question de laquelle des deux équipes est la plus expérimentée, la plus mature. C'est une vraie question et elle est pas forcément simple. Il n'empêche que ils savent, ils connaissent leurs certitudes, enfin leurs certitudes sont sur leur qualité mais aussi sur leur défaut. Et moi, j'aime ces équipes qui disent, bon, bah, de toute manière, on va attaquer, on va marquer des buts, on va peut-être en prendre, mais par contre, on va être fort dans la tête, parce que c'est la seule manière dont on va pouvoir gagner. Et on a déjà passé deux tours en jouant comme ça. Donc, ils vont pas changer leur ADN. Clairement. Et c'est quand même un bras de fer, moi, qui me fait kiffer. Et tu vois, cette espèce de foot champagne au plus haut niveau possible européen, on n'avait pas l'habitude de ça dans les années où on a grandi, les années 2000, où c'était plus strict, il y avait moins de buts et moins de spectacles.
Ah, ça courait moins. Juste avant de finir sur l'aspect mental, d'un point de vue des effectifs, on rappelle pas d'absent majeur du côté du Paris Saint-Germain et du côté du Borussia Dortmund. Juste à noter, Sébastien Haller qui devrait manquer la double confrontation.
Et Malen, normalement, qui est intéressant.
Donc voilà, deux absents quand même.
Haller a du mal à se remettre de la victoire à Cannes.
Hein. Ah ouais, ouais. Saison compliquée pour lui. Après
on l'a pas dit, Kubel, très très bon gardien quand même. Ouais. Côté Borussia Dortmund.
Contre l'Atlético, c'est exceptionnel.
Ils sont quatrième meilleure défense de Bundesliga, en partie grâce à ça.
On l'a pas dit, mais Donnarumma, gardien très surcoté.
On l'avait pas dit ça.
Mais bon sur sa ligne.
Excellent.
Est-ce que vous pensez que Donnarumma, elle est combien la cote là sur Winamax de Donnarumma prend capte un ballon sur un corner ou la frappe ou
pas pariable.
Ils sont pas fous, ils prennent pas de risque.
Oh la vache.
On va rentrer dans le dernier point de pourquoi il faut se méfier de Dortmund et ça va rejoindre l'aspect mental. C'est que mine de rien, Dortmund est outsider sur ce match et on sait que c'est quand même plus simple de jouer un match quand t'es outsider. Il y a deux équipes qui n'abordent pas cette demi de la même façon. D'un côté, t'as Dortmund, sa saison en Europe elle est réussie. Ça y est. Mine de rien, s'ils perdent, c'est pas grave. S'ils gagnent, c'est exceptionnel. Tu le disais, ça ferait presque oublier le choc de l'année passée.
Ouais,
et de l'autre côté, t'as le Paris Saint-Germain qui, il y a trois semaines, bon, s'ils faisaient une demi, c'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est tellement presque un boulevard. Faut pas se porter l'œil pour les supporters parisiens. Que si tu perds aujourd'hui, c'est un échec.
Ouais, tu joues contre Dortmund, mais ton plus grand adversaire, c'est toi-même.
Ouais.
Voilà, donc l'aspect mental, parce que ce club est traumatisé, parce que certains de ses joueurs, Marquinhos le capitaine, Kylian aussi, ont vécu des désillusions terribles en Ligue des Champions. Il y a cette espèce de signe indien qui est peut-être en train de s'effacer. En tout cas, l'histoire s'écrit devant nous. Oui, c'est un boulevard. Oui, c'est vrai. Le tirage est favorable. Oui, la Real Sociedad. Oui, les dingueries du Barça en Xavi, Arojo et toute la clique et Cancelo. On sait toujours pas ce qui s'est passé sur le match retour. Il n'empêche que Paris est programmé, le club en tout cas, pour aller très très loin en Ligue des Champions. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent d'une année de transition. Quand t'as Kylian Mbappé dans ton équipe, du San Rico en tant que coach, ton but c'est de la gagner, basta. Et donc, il va falloir assumer, y aller avec confiance, y aller avec humilité et surtout être très très fort dans la tête dans ces moments, les fameux momentum dont t'as parlé, où tu vas être éliminé, parce que je crois que par la force des choses, il y aura des moments où tu vas être éliminé.
Clairement.
Où Dortmund sera devant. Mais écoute, il y a deux matchs à jouer et puis le fait que tu joues à domicile de retour, c'est la première fois que ça leur arrive. Donc oui, il y a tout pour. Eh oui, il y a tout pour. Il y a plus qu'un.
Manu, le PSG, ne peut pas se cacher, mine de rien, parce que Luis Enrique aussi, on l'a vu cette semaine dire en conférence de presse, on veut faire cette année le quadruplé historique, on veut marquer l'histoire de ce club. Il ne se cache pas.
Non, il ne se cache pas. Et de toute façon, il a réussi là où tellement d'entraîneurs ont raté par le passé, c'est-à-dire de construire une vraie équipe, ne pas dépendre uniquement de ses individualités. Donc déjà, de ce point de vue-là, le pari, il est réussi. La préparation mentale aussi également de son équipe. Moi, je reste persuadé que l'analyse du match retour, c'est le Paris Saint-Germain qui pousse le FC Barcelone et à la faute et au pétage de plomb. Et ça, on était plus habitué à ce que ce soit le PSG, justement, qui soit victime de ce genre de choses. Donc... Moi, si tu veux, je rejoins complètement ce qu'a dit Tom et je vais même inverser le propos. On a l'opportunité, alors que l'on sait que c'est la dernière chance pour Kylian Mbappé de jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et pourquoi pas de la remporter. T'as un tirage qui est complètement favorable depuis le début, hein, en tout cas. Après, ça veut pas dire que le Borussia Dortmund est une petite équipe. Non, il va pas falloir la prendre de haut, bien évidemment. Mais t'as un tirage qui est plutôt favorable et c'est presque inespéré de voir le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé justement disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Alors à l'inverse, si jamais Paris ne passait pas, si ce Paris Saint-Germain-là de Kylian Mbappé ne passait pas contre le Borussia Dortmund en demi-finale, je pense qu'on serait tous très déçus parce qu'il y a la possibilité d'écrire une page assez incroyable.
Le foot va vite, hein, parce que si on prenait ton extrait il y a deux mois,
on serait complètement fou.
Il mange du caviar, celui-là.
C'est
clair. On va se plonger sur les pronos. On vous rappelle d'ailleurs que Winamax est notre partenaire et on les remercie. D'ailleurs, après, vous verrez une petite vidéo pour savoir comment profiter du code FT10. On va voir les codes déjà, les gars, et je vais demander votre promo en même temps pour le match aller, match du côté du Borussia Dortmund. 2,75 pour le Borussia à domicile, 3,50 le match nul et puis 2,35 pour les Parisiens. Qu'est-ce que vous voyez pour ce Game 1, ce match aller?
J'aurais bien une victoire de Dortmund à l'aller quand même. Malgré tout ce que j'ai
choquant,
pu dire.
Pas choquant. Pas choquant.
Mais une qualification du Paris Saint-Germain à l'arrivée.
Tu vois, je suis allé regarder tout à l'heure les cotes. Je me disais, est-ce que je pouvais pas faire un double chance entre match nul ou PSG?
Ah ouais, pas mal.
Parce que
ouais.
Vous savez qu'il est hors de question que je mette 1 euro contre cette équipe. Je serais pas non
plus. C'est pour ça que t'as perdu beaucoup de sous ces dernières années.
Et c'est pour ça que j'en ai gagné aussi il n'y a pas si longtemps. Vous savez, j'ai fait un gros coup, hein, grâce à Kylian, PSG gagnant et tout ça. J'ai gagné 400 balles. Je suis ravi. Ça m'a permis de m'acheter des billets d'avion pour aller en vacances.
Et
c'est la première fois que je vais en vacances depuis 97 et la victoire de la Ligue des Champions de Dortmund. Hein.
donc pour toi, c'est le...
Ouais, franchement, elle est dure. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que les cotes sont très élevées. Hein. 2,75, 2,35, 3,50, c'est-à-dire que les traders n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans les deux côtés, ouais, absolument, avec le Bayern-Real Madrid. Donc, je vois le 1,35 de la qualification. Je trouve que le 1,35, il n'est pas bien payé. Ça montre aussi la manière dont le PSG est favori dans tout ça. Je peux pas parier contre Paris. Donc moi, j'aimais bien voilà le match nul ou PSG qui passe. Et aussi, bien sûr, 2,5 buts dans minimum.
On va y aller juste après. On conseille peut-être de prendre la cote de la qualification après le match aller, vu qu'on sent peut-être
Si Paris a gagné, elle va encore descendre.
Moi, je sens que Dortmund ne va pas perdre à domicile.
Ah, moi, je pense que Dortmund ne perdra pas à domicile.
Il vaut mieux jouer la qualification après.
Ah, ok. Donc toi, tu dis Dortmund, match nul, double chance. D'accord.
Voilà. Des cotes qui nous paraissent un peu plus évidentes, c'est sur les buts. On va le voir. Les deux équipes marquent, oui, à 1,42. Ça semble assez évident vu les forces offensives et les faiblesses défensives des deux équipes, et puis le nombre de buts, là j'ai pris plus de 3, 1,74, donc plus de 3 matchs dans le but, ça veut dire 2-1, ça veut dire, ça veut dire 2-2, ça veut dire 3-1, ça veut dire une orgie offensive, mais c'est ce qu'on attend les gars.
Ouais, de toute manière, c'est ce qu'on a dit. Après, tu vois, lorsque t'es en train de réfléchir à comment gagner de l'oseille, est-ce que tu peux pas prendre le contre-pied de tout ça? Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer peut-être pas un 0-0, mais un match avec du rythme et tout ça, mais tu sais, avec deux gardiens qui sont en état de grâce, je suis sûr que certains pourraient, mon avis, et on le dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y aura des buts, il y aura des occasions, qu'il y aura un match fou, donc je parierais pas contre ça, mais... Le foot est tellement surprenant ces derniers temps qu'on pourrait aussi imaginer que les attaquants et les pieds carrés arrivent avec la boîte à chaussures et ça tire au-dessus et que les gardiens soient magnifiques. Donc pourquoi pas aller faire un coup sur un 0-0. Le 0-0, il doit être
très haut.
Élevé.
À mon avis, à 8.
Ah, tu sais ce que c'est, j'ai regardé. C'est
14,50. Ça paraît dur quand même. Ça paraît dur d'aller mettre de l'argent là-dessus. Peut-être aussi peut-être sur les buteurs.
Ils n'étaient pas encore sortis.
Donc
on ira voir. On vous rappelle que si vous pariez, c'est avec prudence. Évidemment, on parie seulement l'argent que l'on peut parier, et si vous voulez profiter d'un petit code promo, et vous avez qu'à suivre ce que Thomas Dufin va vous dire dans la vidéo.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Maintenant, vous savez tout. On a quand même posé la question sur les réseaux FT Sport. N'hésitez pas à nous suivre. Si c'était vraiment une autoroute pour le PSG, c'était un boulevard, j'ai utilisé comme mot. Et les gens sont quand même prudents. Ils ont raison. Non, à 66%, les gars. Donc, en un mot, le PSG se qualifie tous les deux?
Oui.
Oui.
Paris se qualifie.
Bien sûr,
mais ça sera pas un boulevard.
Ce sera deux matchs serrés, ce sera à la Muerte, il va y avoir du suspense, ça va être fantastique. Mais imaginez une qualification au Parc des Princes le 7 mai prochain dans un stade en feu. tout le monde en rêve. On rappelle que c'est la première fois que Paris a une chance de se qualifier pour la finale avec des gens dans le stade. C'est la première fois qu'ils vont jouer une demi-finale, à part les années 90 bien sûr, mais sous QSI avec des gens dans le stade. Donc j'ai vu le prix des places. Malheureusement, je suis au Sénégal, j'étais à deux doigts de faire une dinguerie. J'étais à deux doigts de remettre ce que j'ai gagné grâce à la performance minable du Barça, les 400 balles dans une place pour être tout en haut derrière les buts. J'ai failli le faire, mais malheureusement, je suis en voyage scolaire. Bon. Ouais.
On rappelle qu'on se rend direct hein, après le match aller et le match retour aux alentours de 23h sur Twitch et sur YouTube. Donc soyez bien présents. Manu, tu l'as dit, oui, qualification du PSG.
Ouais, qualification du PSG. Dans la douleur, mais ils vont le faire.
Ils vont le faire et ils affronteront donc en finale, s'ils passent, oulala, je vais trop vite, soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. On vous rappelle que c'est l'autre affiche de la demi-finale. On se quitte avec un petit jeu. Comme chaque semaine, je vous ai zoomé sur le maillot d'un joueur et je vais aller prendre un peu son Wikipédia pour vous donner quelques indices. Dès que vous êtes prêt en régie, on peut y aller sur le jeu et Thomas, tu vas pouvoir tourner. C'est un joueur du Borussia Dortmund qui a explosé là-bas.
Qui
est européen et qui explose là-bas et qui signera en Angleterre dans un club.
Yanker. Ah non, c'est Modric, non.
Non, qui joue en rouge. C'est un milieu de terrain.
Rosicky. Thomas, Rosicky, le tchèque.
C'est les cheveux. Tu sais.
Bravo.
Et oui, Thomas Rosicky.
Incroyable
donc,
classe.
Qui avait explosé au Borussia Dortmund et qui après on connaîtra Arsenal. Merci les gars pour cette grande preview. On se retrouvera pour le débrief. On verra si on a été bon dans les analyses. En tout cas, on vous donne rendez-vous mercredi 23h pour le débrief en direct. Ciao.
Acast anbefaler.
Mit navn er Anders Morgenthaler. Overfor mig sidder
Roald Bergmann.
Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben.
Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
Vi er skide trætte af alle de der podcast, der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD.
Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.